Chapitre 73. 17 heures. Nicolas au volant dans les rues de Paris. À sa droite, Audra, visage tendu, partagé entre l'excitation, le loup qui approche enfin sa proie, et l'urgence. Toutes leurs pensées convergeaient vers le petit Lucas, kidnappé en pleine nuit. D'après Boëti, un individu d'une cinquantaine d'années, cahoué et capuche sur la tête, s'était introduit dans la pouponnière aux alentours de 4 heures du matin après l'agression du gardien et s'était rendu dans la chambre du bébé, menaçant le personnel de nuit avec une arme et les enfermant dans une pièce. D'après les témoignages, l'homme avait hurlé à visage découvert et semblé hystérique. Le plan alerte enlèvement avait été déclenché 1 heure plus tard. Selon les informations remontées au 36, la description établie par les témoins concordait avec celle de Marc Griffon. Les flics avaient glané des photos sur Internet. Le gynécologue, 50 ans, faisait beaucoup plus que son âge. Une couronne de cheveux gris clairsemés, des joues aux rides profondes et noires, comme les branchies des requins. Pour Nicolas, qui avait rencontré Lucas, aucun doute. Marc Griffon était le père du petit. Après le retour de Lucie, Charcot avait décidé de taper sur le lieu de travail et au domicile de l'homme en même temps. Alors que le reste du groupe et une équipe supplémentaire fonçaient chez lui au Chêne, banlieue chic du sud-ouest de la capitale, Nicolas et Audra arrivaient à la clinique privée, la Châtaigneraie, située non loin du parc Montsouris. D'après les informations récoltées, Marc Griffon dirigeait le service d'assistance médicale à la procréation de l'établissement. Plus tôt dans l'après-midi, Pascal avait confirmé « La Châtaigneraie faisait partie de la clientèle d'Arnaud de Monchaux qui s'y rendait 2 fois par mois, une fréquence supérieure à la moyenne. C'était aussi dans cette clinique que la conception d'Hercule, le bébé médicament, avait eu lieu au tout début de l'année 2012 » par Marc Griffon en personne. Grande huître fumée, acier brossé, l'herbe coupée à ras et lignes épurées. La clinique appartenait au futur. Dans le hall, mur végétalisé, escalier à structure hélicoïdale, cage d'ascenseur transparente. Badge de police en main, les flics demandèrent à être accompagnés par l'hôtesse vers le service de PMA. Tout en montant au 2e étage, elle leur apprit que Marc Griffon, qui consultait d'ordinaire le matin, n'était pas venu de la journée. Nicolas prévint Charcot par SMS en attendant de rencontrer le directeur adjoint. Christian Oleyer, à quarantaine, en blouse blanche, aussi raide et étriquée qu'un tube à essai, les reçut dans son bureau 5 minutes plus tard. « Que se passe-t-il ? » Nicolas la lui fit courte. Marc Griffon était soupçonné d'être lié à plusieurs affaires criminelles. Il avait déclaré sa femme disparue en mer en 2013, alors qu'on avait retrouvé son cadavre dans les bois de Mency. Il avait, vraisemblablement, inséminé un embryon issu de la fécondation de son sperme et d'un ovule de sa femme dans l'utérus d'une mère porteuse que des individus avaient traqué et sauvagement assassiné.
La liste est encore longue, dit Nicolas, tandis que le visage de Christian Oleyer se décomposait. Une équipe arrive chez lui pour l'interpeller et le mettre en garde à vue. Nous avons besoin que vous répondiez à toutes nos questions et que vous évitiez des termes comme « secret médical », parce que ça ne va pas le faire.
Le directeur adjoint ne joua pas au plus fin et se proposa de collaborer d'une voix chevrotante qui marquait son abattement.
Le professeur n'avait pas l'air bien ces dernières semaines. Il se renfermait sur lui-même, ne voulait voir personne, s'absentait, manquait des rendez-vous. Je le sentais très perturbé, tracassé. Alors, ce serait lié à tout ce que vous me racontez ?
Je n'en reviens pas. Il paraissait profondément affecté. Du pouce, il tournait l'alliance à son annulaire gauche. Au bout de quelques secondes, il se reprit et demanda «
Que voulez-vous savoir précisément ?»«
Qui il était, ses activités dans la clinique.
Parlez-nous aussi de l'insémination de sa femme Maggie en 2012. »«
Le professeur est l'un des hommes les plus brillants que je connaisse. Il a participé à la création et au développement de ce service voilà plus de 15 ans contre vents et marées. Il fut un temps où on l'appelait « Docteur Espoir » parce qu'il pratiquait plus de 200 FIV par an, avec un taux de réussite exceptionnel. Des gens venaient de toute la France pour passer entre ses mains.
Venez.
Son drame familial l'a profondément meurtri. Il a perdu sa joie de vivre. Après une période noire, il s'est réfugié dans le travail. Même s'il dirige toujours le centre, il consacre désormais plus de la moitié de son temps à des activités de recherche sur le vieillissement. Son deuxième dada.
Le vieillissement.
Quel genre de recherche ? La dégradation des cellules, le déclenchement des processus génétiques qui amorcent le long cheminement vers la fin de vie. Ici, il voit les cellules naître, se dupliquer. Là-bas, il les regarde mourir et essaie de comprendre pourquoi. Depuis quelques années, on sait que le vieillissement vient entre autres de l'usure des télomères, de courts segments de l'ADN qui couvrent les extrémités de chaque chromosome et qui agissent comme des couches de protection contre l'usure. Ces télomères raccourcissent à chaque division cellulaire, devenant trop courts pour protéger le chromosome. Ce dernier s'abîme, ce qui entraîne un dysfonctionnement de la cellule et le vieillissement du corps. D'après de récentes recherches, cette usure serait programmée dès la naissance dans le code génétique. Autrement dit, le vieillissement ne serait pas une fatalité, mais quelque chose qu'on peut empêcher en manipulant les gènes. Avec son équipe, le professeur espère briser cette programmation innée et freiner ainsi l'usure des télomères.
Nicolas peinait à estimer la portée de telles conséquences. Que se passerait-il si les hommes vivaient 150 ou 200 ans, voire plus ?
Où travaille-t-il ? Quelle entreprise ?
TechViva, une société de biotechnologie, située à Boulogne-Billancourt.
L'une des boîtes de Michel Hortmann. Les deux flics se regardèrent d'un air entendu. L'implication de l'homme d'affaires ne laissait plus aucun doute.
Nicolas montra une photo d'Émilie Robin sur son téléphone.
Le directeur adjoint nia la connaître, ne trouva pas son identité dans le fichier des patients du centre.
À en croire l'informatique, la mère porteuse n'avait jamais été inséminée à la clinique.
Elle a pourtant été inséminée en 2016 avec un embryon issu de votre clinique, expliqua Nicolas.
Plus précisément, cet embryon était le petit frère d'Hercule, le bébé médicament fabriqué entre vos murs en 2012, l'un des embryons surnuméraires qui ont dû être congelés à l'époque. Question simple, cela est-il possible ? Cette procédure aurait-elle pu échapper à vos radars ?
Le visage du médecin se crispa et le silence qui s'installa indiquait que la graine du doute germait dans sa tête. Après un temps de latence, il finit par parler.
Une insémination sauvage clandestine ici, dans nos murs, sans que cela soit informatisé, tracé quelque part, ne peut pas se produire. En journée, l'acte n'est pas pensable. Il y a trop de monde dans le centre. Et la nuit, il y a des caméras de surveillance partout. Un service de sécurité qui contrôle systématiquement les entrées dans n'importe quel service de la clinique. Certes, au professeur, ça lui arrivait souvent de travailler tard et de se retrouver seul dans le centre de PMA.
Mais il n'aurait pas pu faire entrer une femme pour l'inséminer. Il aurait fallu corrompre plusieurs personnes.
Je ne vois pas comment...
Si la femme ne vient pas à lui, il peut aller à elle ? Demanda Audra.
Sortir un embryon d'ici et l'inséminer ailleurs.
Le directeur adjoint resta calme face à des propos qui auraient pu le faire sauter au plafond.
C'est odieux, et vous vous en doutez, contraire à tous les codes éthiques qui font de nous des médecins dignes et responsables.
Mais oui, c'est possible. Tout est envisageable quand on possède, comme le professeur, les autorisations nécessaires. Il a accès à tout.
L'insémination, en tant que telle, n'est pas l'étape la plus compliquée. Il ne s'agit pas d'une chirurgie invasive. L'embryon est simplement introduit dans l'utérus par un cathéter.
un peu de matériel, une loupe binoculaire, c'est, dirons-nous, un acte gynécologique plus complexe que la normale, mais envisageable par un professionnel. »
Il fixa ses mains regroupées devant lui, comme s'il lisait la vérité dans leurs lignes.
« À quelques portes d'ici, nous possédons une banque d'ovocytes et d'embryons cryoconservés, un ensemble de tubes numérotés, informatisés, plongés dans des bains d'azote liquide. Le docteur avait accès à cette banque, il en contrôlait les entrées et les sorties. Tous les embryons conservés sont rigoureusement comptés, détruits si nécessaire, les sorties sont référencées. Il y a toujours plusieurs techniciens lors de ces procédures par souci de sécurité. » Mais un directeur corrompu qui gère une banque d'embryons, c'est Dieu qui a le pouvoir de créer ou de détruire la vie.
Oleyer secoua la tête comme s'il ne croyait pas en ses propres paroles.
Il y a tout un processus pour décongeler un embryon. Il s'agit d'une étape extrêmement délicate qui ne peut être réalisée que dans ce centre avec du matériel spécifique et extrêmement coûteux. L'embryon doit passer progressivement d'un milieu à forte concentration en cryoconservateur à des milieux plus dilués avec réhydratation progressive. Mais une fois dévritifié, c'est le terme exact, viable et plongé dans un milieu nutritif, rien n'empêche de le transporter. Pour schématiser, ce ne sont que quelques cellules d'une taille infime, un tube qui tient au creux de la main. Ni vu, ni connu.
C'est Dieu qui a le pouvoir de créer ou de détruire la vie. La phrase cheminait dans la tête d'Audra. Elle imaginait Marc Griffon seul la nuit dans la clinique au milieu de tous ces tubes stockés dans leur cuve. Elle se rappelait les problèmes liés à ces banques, évoqués par la technicienne du centre bordelais qui avait analysé les différents ADN en rapport avec leur affaire. Ces milliers d'embryons que personne ne réclamait, perdus dans les volutes des bains cryogéniques. Un vrai supermarché dont Griffon avait les clés. Elle songea à Lucas, à Émilie Robin, membre du clan et inséminé, qui avait ensuite fui et donné sa vie pour protéger Lucas. Il est spécial, ce bébé. Elle revit les images du film à Trotz. Avec cette femme qui avait enduré le viol, les coups et les mutilations pour se faire accepter du groupe. Et alors, elle crut comprendre la raison de l'existence du clan. La vérité lui fut insupportable.